VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Ouagadougou, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. États-Unis, le président Barack Obama s'envole tard aujourd'hui pour une nouvelle tournée africaine qui le conduira demain au Kenya, pays natal de son père, puis en Éthiopie, Nicolas Pineau.
Oui, ce voyage est d'abord placé sous le signe de l'économie, puisque Barack Obama participera à Nairobi à un sommet mondial de l'entrepreneuriat. Le Global Entrepreneurship Summit est une initiative lancée en 2010 et qui rassemblera des milliers d'entrepreneurs et d'entreprises. Barack Obama rencontrera évidemment son homologue kényan, Uhuru Kenyatta. Les deux présidents auront à discuter de commerce et de sécurité avec la lutte contre les djihadistes d'Al-Shabaab, responsables notamment du massacre de Garissa. Même priorité lorsque le président américain rencontrera les dirigeants éthiopiens. L'Éthiopie est aussi en pointe dans le combat au sein de la mission africaine en Somalie. À Addis Abeba, Barack Obama devrait évoquer le déficit démocratique africain devant les dirigeants de l'Union africaine.
Crise au Burundi. Dans un rapport publié aujourd'hui, Amnesty International accuse les autorités burundaises d'avoir réprimé les protestations politiques de cette année comme si elles étaient l'équivalent d'une insurrection et fait usage de la force armée contre les manifestants antigouvernementaux. Des dizaines de protestataires ont été tués pendant les violences. Par ailleurs, le Burundi, toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle de mardi, boycotté par l'opposition, qui devrait déboucher sur la réélection du président Pierre Nkurunziza. Au micro d'Éric Manirakiza, Freddy Nkurikiye, chef de mission du Centre pour le dialogue humanitaire basé à Genève, explique pourquoi le scrutin présidentiel met à mal la dynamique démocratique enclenchée par les accords d'Arusha d'août 2000 qui ont mis fin à la longue guerre civile burundaise.
Il y a des voix qui s'expriment pour dire que le scrutin n'a pas rempli les critères de crédibilité nécessaires. Vous savez, quand un processus politique a lieu dans une atmosphère d'incompréhension, de cacophonie, de divergence, teintée de violence, ça ne peut pas manquer de préoccupation. Parce que j'ai participé en tant qu'observateur international au processus de paix d'Arusha, aux négociations, et je suis extrêmement préoccupé par le fait que on puisse perdre les acquis de ce long et laborieux processus de négociation. Je pense qu'à un moment, il y a eu de l'énervement, il y a eu de l'empressement, et ça fait qu'en 2 mois, le Burundi a grillé 3 médiateurs.
Freddy Nkurikiye du Centre pour le dialogue humanitaire, basé à Genève. Au Congo-Brazzaville, le dialogue alternatif pour traiter des questions électorales commence demain. Le collectif des partis de l'opposition à l'origine de ces assises estime que le dialogue récemment organisé par le gouvernement à Sibiti s'est focalisé uniquement sur la question du changement de la constitution pour permettre au président Denis Sassou Nguesso d'obtenir un troisième mandat. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Ce dialogue alternatif souffle vendredi à Brazzaville. Quels en sont les objectifs ? Mathias Nzon, l'un des leaders de l'opposition.
Là-bas, on s'est proposé de faire mettre en avant les intérêts personnels d'un homme. Or, nous voulons mettre en avant les intérêts de tout notre peuple. L'intérêt de notre peuple, c'est d'aller vers la concorde, vers la fraternité et vers de vraies élections pour désigner enfin dans notre pays un vrai président qui sera réellement élu. Mais nous entendons ce que nous avons dit tous les démocrates, les républicains qui sont désireux de venir échanger avec nous sur ces vraies questions-là. Les élections dans notre pays, parce que nous ne voulons plus que les élections deviennent, soit et demeurent toujours une source de querelle dans notre pays. Que ça aille de soi, regardant en Europe, c'est une honte pour nous qu'à chaque élection, nous devons nous quereller. Nous ne voulons plus ça. Le moment n'est plus à la décision sur les institutions. Le pouvoir qui viendra posera ce problème-là. Parce qu'il nous reste seulement 12 mois. On a plus le temps.
Pour les membres de l'opposition, il s'agit là d'une réponse au dialogue national qui a eu lieu du 13 au 17 juillet à Sibiti. Clément Mirassa qualifie d'ailleurs de recul le forum de Sibiti.
Quand vous lisez ce rapport sur la réforme des institutions, on dit que l'article 3 et l'article 86 permettent au président de saisir les deux présidents des deux chambres pour appeler à un référendum qui permette de changer la constitution. C'est faux! Et on ne peut pas permettre au président Sassou de continuer à tromper les Congolais, à tricher et à ne pas respecter les lois et règlements de la République.
Pour Jean Itadi, le président du CAP, l'un des partis organisateurs de ce dialogue, une seule priorité compte pour le Congo aujourd'hui.
Ayant parlé à ses alliés à Evo, à Lourdes, à Brazzaville, le PCT et le pouvoir, et parlé à lui-même à Sibiti. Si les choses avaient évolué, on n'aurait pas repris dans les recommandations et le communiqué final les mêmes choses qui avaient été dites et non appliquées à après Evo, Doulizi et Brazzaville. Ça veut dire qu'il y a des priorités, et la vraie priorité est la seule, c'est créer les conditions de l'organisation d'une élection juste, libre et transparente en 2016.
À 24 heures de ces assises, les interrogations demeurent sur le lieu et la durée de ces dialogues alternatifs. Gwelangoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Cameroun, le président Paul Biya appelle la population à la vigilance après le double attentat suicide d'hier à Maroua, capitale de l'extrême nord du pays, qui a fait au moins 13 morts et 32 blessés. Des attaques qui seraient l'œuvre de deux jeunes femmes kamikazes. La réaction du maire du premier arrondissement de Maroua, Amidou Amadou.
Vous savez, c'est la première fois qu'une attaque de telle envergure, n'est-ce pas, a lieu au cœur de la ville de Maroua. J'avoue très sincèrement que la population, elle est complètement désemparée, elle est complètement déboussolée. C'est vrai qu'elle était très courageuse, surtout avec les mesures prises par les pouvoirs publics, le renforcement, n'est-ce pas, de sécurité depuis la veille de la fête jusqu'à ce jour. Donc la population avait confiance à tous ces dispositifs de sécurité qui étaient mis en place. Bon, mais avec ce qui se passe, je crois que c'est quelque chose de très, très, très douloureux. Mais j'ai confiance en ma population. C'est une population très courageuse, très dynamique. Donc, nous allons rester debout.
Amidou Amadou, maire du premier arrondissement de Maroua au Cameroun. Et puis le Togo veut disposer des statistiques de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Une étude sur la question vient d'être réalisée et les résultats validés. Reportage à Lomé de notre correspondante Kai Lawson.
La justice togolaise ne dispose pas de données statistiques. Pour corriger cette tendance qui agit sur la mise en œuvre du programme de modernisation de la justice, une étude a été réalisée sur l'état des lieux des statistiques judiciaires et pénitentiaire au Togo. Joëlle Affichard est la consultante en charge de l'étude.
Il s'est agi de faire le diagnostic de la production de données au ministère et dans les juridictions, de faire également le diagnostic des capacités des juridictions à produire des chiffres. Et ensuite, sur cette base, je propose un ensemble de dispositifs, c'est-à-dire à la fois ce qu'on appelle un cadre de collecte, c'est-à-dire des tableaux qui devraient être remplis régulièrement de façon à fournir la base des statistiques. Mais je propose également l'architecture du système d'information, c'est-à-dire tout le dispositif institutionnel nécessaire à ce que la statistique soit produite.
La prochaine étape sera la mise en place d'un système de production de statistiques judiciaires. Comparé à la santé de l'homme, les statistiques permettront de faire une meilleure analyse de la situation de la justice et de l'administration pénitentiaire togolaise, estime le ministre de la Justice, Pius Agbetome.
On dit que les prisons sont engorgées, mais peut-être on ne fait pas la bonne analyse. C'est par rapport peut-être à un établissement pénitentiaire qu'on dit que les prisons sont engorgées. Si vous prenez le cas de la prison de Kara, vous ne direz pas que la prison de Kara est engorgée. Mais quand vous prenez la prison de Lomé, parce que c'est une vieille prison et la population carcérale est importante, on dit que c'est engorgé. Et on met en place des politiques pour désengorger. Mais ça ne suffit pas. Donc les statistiques permettront de voir combien de personnes arrivent tous les jours, les délinquants primaires, combien de personnes sortent et reviennent, les récidivistes, combien de personnes sont envoyées au juge d'instruction, les inculpés, combien de personnes sont programmées pour être jugées rapidement, c'est-à-dire les prévenus devant les tribunaux de flagrant délit. Donc c'est toute une panoplie d'informations que les statistiques révéleront.
Afin d'avoir des statistiques fiables, les spécialistes de justice suivront une formation sur la production de données. Eric Nenedini, chargé du programme d'appui statistique à la délégation de l'Union européenne au Togo.
De manière générale, il y a une absence de statistiques. La présence de données ne veut pas dire une présence de statistiques. Parce que les données sont toujours présentes, mais il faut les structurer. Et nous sommes en train de voir avec notre programme d'appui statistique comment nous allons former au niveau des juridictions ceux-là qui sont des spécialistes mais qui sont obligés de faire les statistiques. Ils sont spécialistes de la justice, les greffes par exemple. Personne ne peut tenir les registres des greffes à part les greffeurs.
Le souhait est qu'à la fin de 2015, le Togo puisse disposer d'une première année statistique pour le secteur de la justice. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Et vous terminez, le secrétaire américain à la Défense est maintenant à Bagdad pour une visite surprise en Irak. Quatrième étape de la tournée d'Ashton Carter au Proche et au Moyen-Orient qu'il a conduit auparavant en Israël, en Jordanie et en Arabie Saoudite. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.